Chapitre 16. De son lit, Lescar regardait les volets. Les lamelles de fer étaient inclinées de manière à cacher la lumière de la rue. L'une d'elles était usée comme une vieille pelle. À ce seul endroit, la lumière était visible. Lescar savait que plus la tache était jaune, plus il faisait nuit. Il avait à peine dormi une heure et il avait déjà un goût amer dans la bouche. C'est le foie, pensa-t-il. Il passa la main sur son visage. Il entendit le bruit que faisaient les poils de sa barbe, un bruit pour lui seul, comme quand il croquait du sucre. Une douleur légère, semblable à celle que donne une névrite bénigne, lui serrait la poitrine. Il s'assit avec l'espoir qu'elle s'évanouirait. Il se sentait vieux, sale, au milieu de ce lit mou, couvert de vêtements usés, dans ses draps où les pieds, la tête, avaient laissé des traces sombres. Il sentait, sous ses bras, la flanelle durcie par la sueur séchée. Il sentait ses pieds trop chauds, humides, dans les chaussettes qu'il gardait pour se coucher et qu'ensuite il n'avait pas le courage d'ôter. Mais la tache jaune pâlissait, l'or devenait prime vert. Le jour se levait. Il sortit du lit, s'habilla tout de suite, mit son col, sa cravate et même son chapeau. Alors il se sentit mieux. Il s'habillait toujours ainsi la nuit quand il se levait. Il avait le pressentiment qu'il mourait dans son lit au milieu d'un enchevêtrement de vêtements, tout couvert de transpiration, grelottant de fièvre, incapable de bouger. Et chaque fois qu'il était debout, le chapeau sur la tête, il lui semblait qu'il ne craignait plus rien. Il était 3h30. Il marcha pendant une heure sans faire de bruit, comme sur le palier du deuxième. Parmi toutes les hardes de son lit se trouvait une vraie couverture. Il s'assit dans le fauteuil, s'enveloppa les jambes et, toujours coiffé de son chapeau, resta assis, la lumière allumée. Soudain, le bruit joyeux du camion du laitier, des bidons qu'on jetait sur le trottoir, le tira de son engourdissement. Il était 6h du matin. La nuit était terminée depuis longtemps déjà, depuis plus d'une heure, depuis que le camion avait quitté le dépôt, depuis 4h30, 5h. Lescar pensait à ce camion quand il ne dormait pas. Il était réconforté de le savoir en route. Lescar s'assoupit plusieurs fois. Quand il fit complètement jour, il se rendit à la cuisine, but une tasse de café. Puis il tourna pendant une vingtaine de minutes dans sa chambre. « Je vais y aller aujourd'hui. Il faut que j'y aille. Je serai débarrassé puisqu'on m'attend depuis 3 jours. Je vais finir par tomber malade. » Il sortit. La journée était une des premières du printemps. Rien de ce qui fait le printemps n'était encore visible, ni fleurs, ni fruits, ni feuilles aux arbres, ni même du soleil. Mais la douceur de la belle saison se sentait sous la fraîcheur de l'air. Lescar marchait dans les rues bruyantes, sous le ciel gris et léger, avec une joie de convalescent. Pourtant, à certains moments, son visage avait une expression morne. Il suivit la rue de Rivoli jusqu'à l'hôtel de ville. Puis il revint sur ses pas, monta le boulevard Sébastopol. Il regardait toutes les horloges. Le temps n'avançait pas. Quelquefois même, il reculait, quand, venant de voir l'heure, ses yeux tombaient sur une horloge qui retardait. « Il faut que j'attende 10h, » disait-il de temps en temps. C'est une sorte de supplice de ne pouvoir faire immédiatement ce qu'on a décidé après de longues hésitations. J'aurais mieux fait d'hésiter encore, d'attendre au moins pour me décider que je puisse agir. Au croisement des grands boulevards, il tourna à gauche. Il était 10h-10 depuis un moment déjà. Il ne pouvait plus être 10h-10. Il devait être 10h. Boulevard Bonne Nouvelle, il s'arrêta devant l'immeuble de Donghi. Avant d'entrer, il jeta autour de lui un regard inquiet. Il constata que personne ne s'était arrêté et, sans qu'il pût dire pourquoi, il éprouva un soulagement. Il s'engagea sous la voûte, monta les 2 étages. Dans l'étude régnait cette atmosphère particulière aux journées de travail qui commencent. Rien d'imprévu ne pouvait arriver, et pourtant on y sentait quelque chose de joyeux. Avec des gestes de suspect qui cherche un papier, Lescar montra une lettre à un employé. « Veuillez attendre, monsieur, » lui répondit-on. Il se planta devant une fenêtre face à la cour. Il tremblait légèrement. « Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi, » disait-il à voix basse. « Je ne devrais pas trembler comme cela. » Sa bouche était entr'ouverte. Il essayait de la fermer, mais alors il ne pouvait plus respirer. « Vous pouvez venir, monsieur, » dit l'employé au bout de quelques minutes en soulevant une planche de la balustrade. Lesca fit semblant de ne pas comprendre. L'employé dut lui répéter qu'il pouvait venir. Alors, comme s'il était invité à pénétrer dans un lieu sacré, Lesca ôta son pardessus, courut le poser sur la banquette, lissa ses cheveux de la main, serra sa cravate, tira sur son veston, puis en s'excusant, en demandant à chaque pas s'il pouvait avancer, alla s'asseoir à la petite table de l'employé. Celui-ci ouvrit une boîte à cigares dans laquelle se trouvaient des bijoux de jeune fille. Il tenait un crayon à la main. Une liste dactylographiée se trouvait devant lui. À ses pieds, Lesca remarqua deux ballots enveloppés dans des journaux et ficelés grossièrement. « Est-ce que vous avez votre liste, monsieur ?» demanda l'employé. « Non, non, balbutia Lesca, mais cela ne fait rien, cela n'a pas d'importance. Je m'en rapporte à la vôtre. » Lorsque le pointage des bijoux fut terminé, l'employé défit les ballots. L'un contenait un manteau de fourrure, l'autre des draps et une statuette. « C'est lamentable, » dit Lesca. L'employé leva les yeux, étonné. « Non, non, je pense à autre chose, » dit Lesca. La porte de l'étude se referma toute seule. Lesca l'avait ouverte en s'aidant de ses pieds. Il tenait dans chaque main un ballot. Il pensait « Quelle idée ai-je eue de me mêler de cette affaire ? Et ces gens, quels pauvres gens !» Le soleil allait percer. On l'apercevait dans le ciel gris, sans forme encore. Lesca traversa le boulevard, prit une petite rue qui s'enfonçait vers le centre. Il ne savait plus où il allait. Il ne songeait qu'à s'éloigner, qu'à se perdre. Les trottoirs étaient étroits. Dans ce quartier commerçant, il n'était pas seul à porter des paquets, et cela le réconfortait. « Enfin, Gabrielle sera contente, » pensa-t-il, « puisque c'est à elle. » Puis il revit la cérémonie du pointage. Quelle honte ! Lesca avait pointé lui aussi. À ce moment, il lui avait semblé qu'il manquait un bijou. Il avait fait remarquer, puisqu'il prenait tant à cœur les intérêts de Madame Maz. « Nous allons le trouver, » avait dit l'employé. « Il ne peut être qu'ici. » En effet, le bijou avait été retrouvé. « Quelle honte !» Lesca avait remercié en partant. Il y a quelque chose d'ambigu dans les remerciements qu'on fait en emportant de l'argent. Avait-il remercié pour la peine qu'il avait donnée ou pour l'argent lui-même ? Il avait fallu aussi reficeler le manteau de fourrure. L'employé s'était excusé de faire si mal les paquets. Lesca avait dû l'aider. On avait dû demander de la ficelle à un autre employé. Personne n'en avait eu. Et puis, Don Guy avait paru pour remettre l'argent à l'employé, un reçu à la main, auquel il attachait ostensiblement autant d'importance qu'à l'argent. Lesca s'était levé, mais le notaire n'avait pas semblé le reconnaître. Incroyable, absolument incroyable. Il avait pourtant bien vu. Il était venu s'assurer, sans aucun doute, que Lesca était bien Lesca. Comme tout cela avait été misérable. Lesca entra dans un café, s'assit, posa les paquets sur la banquette près de lui. Une horloge se trouvait en face de lui. Il s'aperçut avec étonnement qu'il était midi et quart. 2 heures. Cette comédie avait duré 2 heures. Il commanda un sandwich, mangea en attendant un œuf dur. Ses yeux étaient baissés. Il ne parlait pas, mais ses lèvres se séparaient légèrement, puis se rejoignaient sans cesse à une cadence toujours pareille. Tout à coup, il se leva, paya et sortit. Le soleil s'était enfin montré, mais trop tard. C'était le soleil d'un après-midi quelconque. Lesca prit l'autobus. De sa place, il voyait la foule qu'il laissait derrière lui et qui se renouvelait sans cesse. Il voyait un cycliste. Il voyait l'étrange petite machine du receveur. « C'est bien français, » pensa-t-il. Soudain, il se souvint de la boîte de cigares. Il l'avait oubliée. Si on la lui avait volée, ce serait le comble, dit-il à haute voix. Son voisin se tourna vers lui. Leska baissa la tête. Dès qu'il fut chez lui, il ferma la porte à clé derrière lui. Émilie se trouvait à la cuisine. Elle n'y faisait jamais rien. Quand son frère lui demandait de venir, elle répondait toujours « dans un instant ». Elle dit à Leska « Est-ce que tu as déjeuné ?»«
Oui, » répondit-il.
Les journaux qui enveloppaient le manteau de fourrure étaient coupés par la ficelle. Leska refit le paquet, puis il alla le mettre dans le coin entre la tête de son lit et le buffet, derrière la chaise qui lui servait de table de nuit. Émilie entra à ce moment dans la pièce. Il s'assit dans le fauteuil de cuir. Au commencement de l'après-midi, le soleil, passant entre deux maisons, pénétrait dans l'appartement pendant une demi-heure. Leska alluma une cigarette. Il la porta lentement à ses lèvres, aspira profondément la fumée, puis il eut un étrange mouvement de tout le corps. On eût dit que, durant un instant seulement, le contact de ses vêtements lui avait été intolérable. Il jeta sa cigarette. Les coins de sa bouche s'étaient étirés. Il devait souffrir. Pourtant, quelques instants après, il se mit à chantonner, battant la mesure imperceptiblement. Mais il s'arrêta très vite. Il était encore essoufflé de sa matinée. Il se leva, alla et vint dans la chambre. Chaque fois qu'il passait près de la cigarette qu'il venait de jeter, il l'écrasait une nouvelle fois. Émilie lavait le couvert dont elle s'était servie. Il s'assit sur son lit, jeta un regard sur le manteau de fourrure. « Émilie » cria-t-il tout à coup d'une voix si forte qu'Émilie sortit de la cuisine. Il était tombé sur le côté. Il tirait d'une main sur sa cravate, la serrant ainsi davantage au lieu de la dénouer. Il agitait l'autre main au-dessus de sa tête. Il piétinait ses propres pieds comme pour chasser par un autre mal, un mal plus grand. On ne voyait plus ses yeux tellement ils étaient comprimés entre l'arcade sourcilière et les pommettes. Émilie cherchait autour d'elle ce qu'elle pouvait bien faire pour le soulager, sans émotion apparente. Elle n'avait encore fait aucun mouvement que Leska se redressa. Il regarda Émilie sans paraître la reconnaître. Il respirait très vite. « Je croyais, dit-il, que j'allais avoir une crise. » Elle l'aida à s'étendre complètement. « La vérité est que tu n'as rien eu, dit-elle. » « J'ai eu peur. J'ai pris les devants. C'est instinctif. » Elle haussa les épaules. « Je vais t'apporter une tasse de café, dit-elle. » Quand elle revint, il avait les yeux fermés, les mains jointes sur son ventre. Il respirait calmement, d'une façon bizarre. À chaque expiration, sa bouche s'arrondissait de telle sorte qu'il avait l'air de souffler sur quelque chose. Dès qu'Émilie fut repartie, ses paupières se levèrent, découvrant deux yeux clairs. Quand Émilie repassa, il ne les baissa pas. « Je croyais que tu dormais, dit-elle. Veux-tu ton café ?» Il ne répondit pas. Sa bouche ne s'arrondissait plus. Elle était restée entrouverte. « Maurice » cria-t-elle, prise de peur. Il tourna la tête lentement vers elle. « Qu'est-ce que tu as ?» demanda Émilie. « Je vais mieux. » Leska n'avait pas bougé quand la nuit tomba. Les lumières de la rue dansaient au plafond. La chambre d'Émilie était éclairée. « Émilie » appela-t-il. « Oui ? » dit-elle. « Quelle heure est-il ? » « 8 heures. » Il se leva, fit superficiellement son lit. Il se sentait beaucoup mieux. Il se mouilla ensuite les cheveux, se donna une apparence de fraîcheur. Puis il traîna encore quelque temps. Quand on a été longtemps couché, on aime à se confirmer sa liberté de mouvement en touchant à tout. « Je vais faire un petit tour, » dit-il à sa sœur. Beaucoup de monde circulait encore dans les rues, car la journée avait été belle. Les glaces de certains cafés étaient ouvertes. L'air était d'une extraordinaire limpidité. Leska se dirigea vers la place du Châtelet. Il sortait rarement le soir. Il lui arrivait de rentrer tard, mais presque jamais il ne sortait s'il se trouvait chez lui. Il traversa les deux bras de la Seine. Il se rendait rue Monge sans l'avoir décidé,
se laissant porter comme s'il reconduisait des amis dans un quartier momentanément sans intérêt pour lui. Mais quand il se trouva dans les parages immédiats de la librairie, son cœur se mit à battre. Ce pauvre cœur, il avait vraiment surmené au cours de son existence. Impossible de lui donner du repos. Encore aujourd'hui, et malgré toutes ses précautions, Lesca ne pouvait organiser sa vie de manière à le laisser en paix. Pourtant, en s'installant rue de Rivoli, il avait fait ce qu'il avait pu. Comment s'étonner à présent de tous les troubles qu'il ressentait? Il aperçut l'étroite boutique de Madame Maz, éteinte comme toutes les autres, mais si modeste qu'elle n'avait pas besoin de rideaux de fer pour la protéger. Un bec de gaz éclairé de l'extérieur, l'étalage endormi. Lesca s'arrêta pour voir si une lumière ne brillait pas dans l'embrasure d'une porte entr'ouverte. Il n'y avait rien. Madame Maz était bien enfermée chez elle, à moins qu'elle ne fût sortie. Il revint sur ses pas. Son cœur battait aussi fort, mais sans cause profonde, de lui-même, comme un organe qui vient de fournir un effort. Des lumières tremblaient sur l'eau, semblables à des glaives tordus. Il était bien loin, le temps où il errait la nuit avec des camarades. Rien n'était changé pourtant. Les sergents de ville continuaient à porter des pèlerines et les mendiants à faire un manchon de leurs manches. La chambre d'Émilie était éclairée. Il y entra. Émilie était en train de tricoter, les yeux fixés sur les pointes de ses aiguilles, mais la pensée absente. Lesca s'assit sur l'unique chaise de la pièce. Il resta ainsi près d'une heure, sans prononcer un mot, allumant cigarette sur cigarette. À la fin, gêné par cette présence, Émilie dit qu'elle allait éteindre. Il la regarda longuement, toujours sans prononcer un mot. Elle savait qu'il aimait à intriguer par le silence. « Qu'as-tu ? » lui demanda-t-elle agacée. Il continua à la dévisager. « Laisse-moi ! » dit-elle. « Je n'ai rien, » répondit-il enfin. « Après ce qui t'est arrivé, » poursuivit Émilie, « tu ferais mieux de te reposer que de jouer la comédie. » « Tu ne comprends donc pas ?» demanda Lesca. « Non. » Il se leva, fit semblant de partir, puis revint près de sa sœur. Son expression sombre et mystérieuse avait disparu. Il la regardait affectueusement. Il lui tendit la main. « Bonne nuit, » dit-il. Il sortit lentement. Sur le pas de la porte, il se retourna. « Réfléchis, » dit-il. Elle avait posé son ouvrage. Elle dressa la tête, découvrant son cou nu. « À quoi veux-tu que je réfléchisse ?»« À ton avenir. Je ne serai peut-être pas toujours là. On ne me donnera peut-être pas toujours de l'argent. Je peux mourir. » Il venait à peine de prononcer ces mots qu'elle éteignit. « Tu as tort, » dit-il sans faire un mouvement, malgré l'obscurité. Il entendit un « Oh !» de lassitude. « Souviens-toi de ce que je te dis, il sera bientôt trop tard. » Elle ralluma. « Que veux-tu dire? Pourquoi trop tard ?»« Ne te fâche pas, Émilie, c'est pour ton bien que je te parle ainsi. Regarde comme tu vis, tu n'es pas heureuse, je ne peux pas être plus claire. »«
Je te gêne ?»«
Non, tu ne me gênes pas, tu ne me gêneras jamais. Mais tu es plus jeune que moi, tu es en meilleure santé. » Et tu as un fils que tu aimes. Tu peux vivre chez toi, indépendante, heureuse, si tu te réveilles. Tu comprends? Il faut que tu te réveilles. Tu oublies trop la réalité. » Émilie cherchait sur le visage de son frère le sens de ses paroles. Mais une expression de grande bonté cachait ses vrais sentiments.
« Je t'en prie, ne parle pas de mon fils, » dit-elle.
« Réfléchis, Émilie. « Je ne pense qu'à ton bien. »«
Merci, » répondit-elle sèchement.
Il s'éloigna, puis, se ravisant, revint encore une fois auprès de sa sœur. « Tu es assez intelligente, Émilie, pour me comprendre. Il faut sortir, voir du monde. Si tu restes enfermée ici, personne ne s'intéressera jamais à toi. Si tu sors, qui sait, peut-être qu'une occasion se présentera. »«
Quel genre d'occasion ?» s'écria Émilie. « Vraiment, il y a des moments où je me demande si tu n'es pas fou. Tu as une façon tellement inattendue de voir les choses. »«
Une chance, je veux dire.
Enfin, tu sais mieux que moi ce que tu veux. Je suppose que, comme tout le monde, tu serais heureuse d'avoir de l'argent. Pourquoi n'en demandes-tu pas à ceux qui en ont? Ils seront peut-être très contents de t'en donner. » Émilie secoua comme une jeune femme ses cheveux clairsemés. Elle regarda son frère avec une expression féminine de défi. « Au fond, tu veux que je te demande, à toi, de l'argent ?»« À moi ?» s'écria Lesca, sans fermer la bouche pour montrer sa stupéfaction. « Oh, ne joue pas la comédie !»«
Quelle comédie ?»«
Tu as raison, dit Émilie, tes histoires ne me regardent pas, elles ne m'intéressent pas, et je ne veux pas les connaître. »
« Moi, te donner de l'argent ?» continua Lesca. « Mais où le prendrais-je, mon Dieu ?»«
Oh, Maurice, aie pitié de moi ! Donne-moi quelque chose !» poursuivit Émilie ironiquement.
« Oui, si tu veux, » dit Lesca.
Il était impossible de voir s'il parlait sérieusement ou non. Émilie ne savait pas rester longtemps ironique. Son visage se contracta.
« Ah, ça, non !» dit-elle.
« Tiens !» s'étonna Lesca avec douceur. « Je n'accepterai jamais rien de toi, tu m'entends ? Jamais rien !»«
Très bien !» dit Lesca avec douceur. « Mais si on ne veut pas accepter, on peut prendre. »
Cette réflexion surprit tellement Émilie qu'elle se tut.
« Prendre ?» demanda-t-elle enfin.
« Oui, prendre. »«
Voler, tu veux dire ? » ?»«
Pourquoi pas ?»
« Vraiment, il est impossible de te parler, » dit-elle. « Tu perds la tête par moments.
Voler, tu en parles froidement, comme si c'était tout naturel. Enfin, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis ?»«
Je ne t'ai jamais dit de voler. C'est toi qui es folle. »
Il fit quelques pas, se retourna avant de sortir de la chambre.
« Je te répète que tu as tort, » dit-il.
« Assez, assez !» dit Émilie en tirant ses couvertures, en frappant son oreiller, comme si elle allait dormir dans un instant.
« Réfléchis !» dit encore Lesca.
Émilie éteignit sans répondre. Il dut marcher à tâtons jusqu'au commutateur de sa chambre à lui. Puis il ferma la porte de sa sœur. Il resta un long moment immobile.
« Quelle honte » murmura-t-il en apercevant le paquet à la tête de son lit.
Et ses débris d'or, et ses morceaux de jade, et ses pierres desserties.